Can't touch this.
Il y en a qui sont bien amusés.
Bonjour, je sais pas, on m'entend, c'est bon ?
Oui, on t'entend, je disais qu'il y en a qui sont bien amusés.
Ouais, bonjour, c'est un mix de même internet. Bon, je disais bonjour et bienvenue sur le Bit et le Couteau. Aujourd'hui, c'est la rentrée. On a bien glandé tout l'été, maintenant on s'y remet. Donc je suis super heureux de vous retrouver et on est super heureux. Il y a moi, Rep et Alex.
Salut.
Salut. Et t'es qui, toi ?
Moi, je suis Florent. Voilà. Et toi, t'es qui ?
Et moi, je suis Philippe, le technicien.
Philippe, le technicien, d'accord.
Voilà. Donc, le Bit et le Couteau, ça commence. Je vous laisse à vous.
Merci. Donc, on reprend comme d'habitude les bonnes vieilles habitudes. Donc, tu rappelles quoi ?
Le pad qui est sur canalsud.etalop.org où vous retrouverez les liens et les musiques qu'on diffuse.
D'accord. Alors, cette année, on s'était dit, enfin, j'avais dit surtout, on va se fixer un thème pour chaque émission. Donc, on s'est fixé un thème qui est aujourd'hui le leak. D'accord ? Mais je pense que personne n'a travaillé dessus sur le leak, donc on n'a rien à dire sur ça, donc je pense qu'on va abandonner cette idée. Toi, tu avais quelque chose ? Ah oui, tu as quelque chose, Rep à travailler.
Non, mais tu t'avais parlé de ça, ouais.
Ouais, ouais, mais moi, lien, après, j'ai rien trouvé, et puis voilà, rien de...
Non, mais
que des choses un peu mainstream, et toi, tu as trouvé une
paire. Je pense que c'est pas mal de parler de leak, etc. Sauf que je pense que notre faille à nous, ça serait de redire des trucs qui ont été dits ailleurs. Donc,
voilà.
Des leaks, il y en a toujours, donc en fait... Bon, les gens qui lisent reflet.info, mediapart.fr, tous les jours on en a des leaks en fait.
C'est vrai.
C'est-à-dire c'est le boulot du journaliste en fait, si on réfléchit bien. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on parle de leaks parce que les journalistes font plus leur travail, donc on parle de leaks en fait.
C'est
vrai. On devrait pas avoir à parler de leaks en fait, mais bon, bref. Mais je pense que le boulot de Assange notamment, c'est en gros, il fait le boulot que les journalistes ne font plus quoi en fait, tout simplement quoi. Ouais, non, juste un truc, je pense, parce que je pense que ça n'a pas été trop connu, et je trouve que l'exemple est assez rigolo, c'est une nana qui est élue dans un conseil municipal à Saint-André-de-Valborgne, et
c'est
donc
où ça,
j'en parle parce que c'est dans les Cévennes et c'est pas loin de chez moi, quoi.
C'est ton chez toi.
Donc, ouais, donc les Cévenoles, tu vois, la guerre des Camisards, tout ça, enfin, il y a une espèce de culture un peu là-bas aussi de... protestantistes, comment dire, de gens qui se réfugient dans des montagnes pour fuir le pouvoir en place, quoi. Et donc, à Saint-André-de-Valborgne, il y a eu un conseil municipal élu, donc il y a un an et demi de ça, je crois, un truc comme ça. Et donc, une petite nana assez proche des idées de Chouard, je sais pas si, je pense que tout le monde voit à peu près qui est
ouais,
Chouard.
Tu peux rappeler, parce que...
C'est le mec, en 2005, a pondu une contre-étude sur la...
Démocratie directe,
non ? Non, 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 à l'époque, c'était... Ce qu'il a fait connaître, c'est sur le traité européen de 2005, le référendum auquel on a voté non, et en fait qu'on l'a eu quand même. Donc lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié le texte, et en fait, il a démonté le texte en mettant en avant toutes les dispositions dans ce texte-là qui s'asseyaient sur le droit commun, en fait, quoi. Et donc il a dit, ben non, en fait, il a essayé de démontrer qu'en fait, ce texte, au-delà de... la Constitution européenne, ce qu'elle figeait dans le marbre, c'était en fait une perte pour les citoyens de leur pouvoir direct sur la démocratie, en fait, sur l'exercice du pouvoir, en fait. Donc lui, ça a été son cheval de bataille pendant un moment, et donc il a été amené à se poser la question de dans quel état les démocraties sont, en fait, qu'est-ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui, comment la démocratie fonctionne ou pas, parce que d'après lui, elle fonctionne pas, donc il propose maintenant d'autres alternatives à la démocratie telle qu'on la connaît, que lui appelle une aristocratie élue, et je suis assez d'accord en fait avec ça.
Ouais, justement sur ça, il y a une vidéo sur YouTube, c'est Pourquoi j'ai pas voté, et qui explique ouais. Tout ça, et vachement bien faite. Faudrait retrouver...
Je le mets sur le pad, la vidéo.
Ouais, celle-là, elle est vachement bien.
Bon, après, Chouard aussi, il a un blog, il explique, enfin, tout ce que je raconte là, il explique son truc. Bon, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il raconte, hein, moi, je pense que, voilà. Mais au moins, ça a le mérite d'exister, le gars raconte ses trucs. Et donc, cette nana, qui donc de Saint-André-de-Valborgne, qui est élu donc dans un conseil municipal de 10 personnes, et je sais pas, le bled il doit faire 200 habitants, un truc comme ça. Et elle est assez fan de justement des théories de Chouard. Et donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une liste, et ils ont respecté ce que Chouard préconise, c'est-à-dire que ils ont fait une liste à eux, et en fait ils ont tiré au hasard les gens qui allaient être potentiellement élus au conseil municipal.
D'accord.
Donc ils ont vraiment fait ça, et donc elle s'est retrouvée dans les gens susceptibles d'être élus, donc voilà, bon, elle s'est retrouvée au conseil municipal, et comme elle trouvait que dans le conseil municipal il y avait beaucoup de conflits d'intérêts, de choses qui étaient qui lui semblaient élucidées de manière un peu étonnante, elle a décidé d'apporter une caméra dans le conseil municipal pour filmer les débats, les décisions qui étaient prises. Et voilà, donc ça raconte l'histoire de cette nana. Elle a fait un blog, j'ai mis le lien sur le pad. Elle a fait un blog là-dessus, parce qu'il se trouve qu'en fait, il y a eu beaucoup de conseils municipaux qui ont été carrément annulés du fait de la présence de la caméra. Parce que le maire s'oppose directement au fait que les choses puissent être enregistrées, etc. Alors qu'en fait, un conseil municipal, c'est public. Et donc voilà, donc c'est cette histoire. Donc c'est pas réellement un leak, mais c'est l'idée que, à partir du moment où on met les gens devant leurs responsabilités, notamment celle d'être en public, y a beaucoup de gens qui voudraient revenir là-dessus et qui trouvent que c'est un problème que les choses soient enregistrées. Et que, enfin, je veux dire, ça fait écho à tout un tas de trucs.
Oui,
ça
fait écho à la surveillance aussi. Une fois,
oui, par exemple, les enregistrements du majordome de Mediapart qui ont été déclarés intrusifs il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Mediapart
a dû
retirer des trucs. Alors qu'en fait, bon, bah merde, ça nous concerne comme un peu tous, toutes ces putains de magouilles. Enfin, je veux dire, effectivement, bon, c'est vrai, on rentre dans l'intimité des gens, mais quand ça parle de choses qui vont avoir des conséquences dans le public, on peut quand même légitimement se poser la question de savoir est-ce que c'est pas intéressant quand même d'être au courant, quoi. Tu vois, bon.
Il y a bien des caméras à l'Assemblée nationale.
Oui, voilà, ouais. Oui, il y a des caméras à l'Assemblée nationale, mais enfin, il y a plein d'endroits où des caméras, il n'y en a pas, quoi. Et justement, enfin, si on parle du leak, le leak, c'est justement la chose qui rend public quelque chose qui n'a pas été avant. Enfin, je veux dire, typiquement, un leak, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est rendre public quelque chose qui ne l'est pas. Et qui, pourtant, peut intéresser le domaine public, c'est-à-dire les gens, vous, moi, les citoyens, qui pourraient trouver intéressant d'avoir accès à cette information. Et qui ne l'ont pas parce que c'est caché. Et du coup, il faut un leak pour la révéler. Alors que si on était dans une démocratie un tout petit peu bien branlée, normalement, on n'aurait pas besoin de leak. Parce que les informations sortiraient d'elles-mêmes. Voilà. C'était ma parenthèse sur Saint-André de Valborgne.
Mais c'était une très bonne parenthèse, voilà, sur le leak. T'as une partie actu, toi ? Peut-être Shell Shock ?
Parler rapidement de Shell Shock, ouais.
Ouais. Alors, qu'est-ce que donc que Shell Shock ?
Bonne question.
C'est un bug.
C'est un bug qui a été.
Sur Bash ?
Bash. Donc, Bash est un logiciel qui permet de taper des commandes dans un terminal sous Linux.
Voilà, c'est très vieux, ça va plus de 20 ans.
Ça date des années 70, je crois.
Ouais, donc encore plus vieux.
Non.
Non, ouais.
Non. Bash, c'est pas les années 70, c'est la fin des années 80.
Ok.
Ah non, oui,
on va vérifier.
Oui, non.
Non, le gars, je crois que oui.
Je sors Wikipédia.
Allez.
Et non, donc,
il y a des interpréteurs de commandes. Il y en a gavé. Hein, il y a pas que Bash. Hein. Je veux dire, des choses qui nous permettent de rentrer des commandes dans un ordinateur.
Oui, mais bon, c'est quand même un des plus utilisés, quoi.
Un point pour Pierre, 89.
Ah. Fin des années, voilà. Okay.
Hey.
Non, mais je me suis renseigné, les gars.
Moi aussi,
j'ai
pas
de chez
moi.
C'est un remplacement pour Bond Shell, SH.
Et donc, un peu tu t'arriverais à expliquer le pourquoi du comment
alors,
ça bug.
C'était une. Dans Bash, on peut régler des variables.
Ouais.
Donc, par exemple, on peut dire $hello égale blabla.
Donc le dollar, c'est la variable.
Donc le dollar hello, c'est la variable.
Oui.
Et dans ces variables, on peut aussi mettre des commandes.
Ok.
Et donc quand... comment ça marchait déjà ?
Je crois que le truc exact, c'est que quand on définit une fonction comme étant une variable,
ouais,
ce qui suit la définition de la fonction est aussi interprétée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la fonction, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que stocker la fonction dans la variable. Ce qui suit la variable dans la déclaration, on met dollar hello égale une fonction, quoi, je sais pas, Titi fait la cuisine, point virgule, donc on finit notre fonction, mais ce qui suit dans la déclaration, ce qui suit va être interprété, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer des commandes directement à bâche, en fait, à l'interpréteur, quoi. Donc, il va pas juste stocker une fonction dans une variable, il va continuer à interpréter ce qu'il y a derrière.
D'accord.
Et donc, en fait, c'est comme un espèce de dépassement de tampon, quoi. C'est-à-dire, on tape dans quelque chose qui n'était pas du tout prévu, en fait, quoi.
D'accord. Donc, au final, ça permet d'exécuter n'importe quelle
fonction arbitraire
sur un système Unix.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Dans pas mal de services qui utilisent cet interpréteur de commande de genre DHCP, c'est ce que vous utilisez pour avoir une adresse IP sur le réseau. Vous pouvez utiliser Shell Shock et lancer quand quelqu'un demande une IP sur le réseau, lui aussi lui exécuter des commandes.
Ouais. Et en fait, c'est un bug qui existe depuis 20 ans et jamais personne ne s'en est aperçu, ou des personnes s'en sont aperçues et l'ont utilisé. Ça en saura jamais. Et Cocorico, c'est un Français qui l'a découvert. Donc, maintenant, et si vous avez Linux ou Unix ou peu importe, et ben pensez à mettre les mises à jour, puisque elles sont passées dans les heures qui ont suivi mises à jour.
Le truc, à la limite, là, j'en profite que je suis à la radio pour le dire, mais le seul truc, parce que j'ai un peu galéré, j'ai deux serveurs, un qui est en Debian stable et un qui est en old stable, parce qu'il est un peu plus vieux, et puis j'ai pas fait la mise à jour vers la stable, je l'ai laissé en old stable. Et donc, la stable, elle a été patchée très très vite, quoi, dans les heures qu'on suivit le truc. Dans l'heure, il y avait le bash qui était à jour, on pouvait mettre à jour bash, donc il y a pris en fait ça aussi, mais old stable, c'est un peu plus chiant. Et donc, en fait, il y a une solution qui a tourné et que je trouve qui est la plus simple à faire, qui est temporaire, hein, mais qui a bien marché dans mon cas, c'est de changer le source list de sa distribution, de la passer en stable. Donc on change le fichier source list de sa distribution, on le passe en stable, et ensuite on fait donc un update, un apt-get update de sa distribution là. Et ensuite on lui demande d'upgrader juste bash, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'update de sa source list, on fait une commande qui ressemble à quelque chose comme apt-get upgrade --upgrade --only bash.
D'accord.
On va upgrader juste bash sur la distribution stable, et une fois qu'on a fait ça, on repasse le source list en old stable et on refait un update. Et là, quand notre bash est updated,
formatez deux points et vous réinstallez, sauvegardez vos données si vraiment vous avez un vieux truc tout pourri que vous craignez quelque chose.
Ouais. Windows.
Vous formatez, mettez Windows.
Windows,
et un vieux. Hein.
Windows Server 2008.
Voilà. Au moins XP, ça sera le minimum. Ouais. Et puis il y en a eu d'autres ces dernières semaines. Là, il y a eu Shell Shock, il y en a eu un autre. Là, comment il s'appelait? Non, j'ai oublié.
Bon, la nuit dernière, il y a eu un truc sur SSH. J'ai pu.
Bon, enfin bref, il y en a souvent. Mais là, c'était quand même un super gros. Dans l'actu, moi, je vais rebondir sur peut-être pas du leak, je ne sais pas si c'est du leak, si on peut le classifier dans le leak. C'est un Autrichien qui s'appelle Max Schrems, qui a 27 ans en fait, et il a intenté un procès contre Facebook sur le fait de la propriété des données, comme quoi Facebook n'a pas à avoir la propriété de nos données, et si on les supprime, elles doivent être effectivement supprimées. Donc en 2011, il avait fait plier Facebook, et Facebook lui avait envoyé un DVD avec un PDF de 1200 pages, et avait toutes ses conversations, tous ses trucs privés, alors même qu'il avait supprimé son compte Facebook. Donc déjà, moi je me pose la question, pourquoi il l'a envoyé sous forme de PDF ? Peut-être pour qu'on ne sache pas comment sont structurées leurs données, ni comment on peut les réutiliser, je ne sais pas. Enfin bref, actuellement, en fait, il est en train de faire une class action. Class action en français, c'est une action de groupe. Une action de groupe. Class action, ça existe beaucoup aux États-Unis, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort aux États-Unis, et en Europe, ça existe.
C'est comme une pétition, mais qui a une validité juridique, en fait, c'est ça ?
Ouais, je vais en parler après, justement, je vais rebondir sur ça. Et donc, en fait, actuellement, tout le monde peut s'inscrire à cette class action.
Tous ceux qui sont sur Facebook, quoi.
Ouais. Par exemple.
Combien de personnes actuellement ?
Et donc, il y a un site qui s'appelle fbclaim.com où on peut s'inscrire. Bon, pour l'instant, ils l'ont limité à 25 000 personnes. Donc, maintenant, ça reste une liste d'attente.
Ah, c'est déjà rempli ?
Pour l'instant, ouais, c'est déjà rempli.
J'ai un lien qui date du 5 août. Ils disent qu'il y a 17 000 personnes au 5 août.
Ouais, là, je l'ai fait tout à l'heure et c'est plus possible. Mais bon, ils me tiendront au courant ou j'en sais rien. Enfin, bref, tout ça pour rebondir sur les actions de groupe qui, depuis cet été, sont possibles en France. Donc,
sauf pour les médicaments.
Mais attends, mais tu me coupes l'herbe sur le biais, là. Comment je vais faire le reste de mon émission, moi? Donc, je me suis un peu renseigné sur ça. Donc, déjà, c'est vraiment pas mal, parce que ça fait au moins 20 ou 30 ans qu'ils en parlent en France. Et ils l'ont mis en place. Donc, pour l'instant, les recours collectifs ne sont que pour des sujets sur la consommation. Donc, actuellement, il y a l'UFC Que Choisir qui a collé un procès en action de groupe à Foncia, parce que eux, c'est des gros bâtards et ils vasillent sur les lettres de les quittances de loyer, ils se sucrent sur l'envoi des quittances de loyer alors que c'est interdit. Et donc, j'ai un peu regardé
comment. Moi aussi, mon agence me fait payer d'ailleurs les frais d'envoi.
Eh bien, c'est interdit. Ouais. Il y a plein de choses qui sont interdites.
D'ailleurs,
comme ça,
je viens de recevoir un courrier comme quoi ils me disent: oui, est-ce que vous acceptez de le recevoir par mail? C'est rigolo.
Ah ben ouais.
C'est suite
ouais.
à ce que tu racontes, certainement.
Ben, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Et donc, en fait, comment ça marche? Moi, je me disais: on se met en groupe et c'est bon, on fait une class action, on fait une action de groupe, on va essayer de parler français. Et non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut passer par une association. Et pas n'importe quelle association, parmi 15 associations qui ont été agréées. Ouais. Alors la liste, qui l'a mise en place, ça j'ai pas trouvé qui l'avait mise en place. Mais alors je vais vous dire les associations et vous allez rien comprendre. Alors il y a le CNAFAL, le CNAFS, le CSF, Famille de France, Famille Rurale, UNAF, ADI, CAFOC, INDECOSA, CGT, LLLDC, UFC Que Choisir. Ça, tout le monde, c'est le seul, je crois, qu'on, avec Famille de France, que tout le monde connaît. CLCV, CGL, CNL et FNOT. Et en gros, il y a beaucoup d'associations de défense de la famille, tout ça. Il y a une défense des consommateurs, UFC Que Choisir. Et après, tout ce qui est regroupement d'usagers des transports, donc usagers RATP, SNCF, ouais. tout ça. Donc, parmi cette liste, donc, déjà, se pose la question comment ça marche. Donc, en fait, tu envoies une demande à l'association. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Qui, elle, va te répondre de la validité de ta demande. Donc déjà, on peut se demander, est-ce que l'association, elle n'est pas copain avec machin, tout ça, quelle association? Bon, ok. Donc, parmi les associations, qui c'est qu'on a? Famille de France. Alors, eux, c'est vraiment des gros bâtards, hein, je le dis haut et clair, c'est des gros bâtards. C'est là, une bonne grosse association intégriste, hein, ils sont bien intégristes, qui font un peu la morale, c'est les pères la morale. Donc, ils sont, par exemple, opposés au PACS. Ils ont été opposés au PACS.
Ils ont fait des grosses campagnes contre les jeux vidéo aussi.
Parentalité. Donc là, en ce moment, avec la Confédération nationale des associations familiales
catholiques. Ils auraient pu
s'appeler
les familles qui travaillent en France. Comme ça, il y avait les trois mots, c'était parfait. Ouais,
ouais, mais il y a la Confédération nationale des associations familiales catholiques qui fait aussi partie de cette liste de 15. Et il y a aussi l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales, qui, elle aussi, regroupe Famille de France et ce truc catholique aussi. Donc, la Confédération... Je reviens sur Famille de France. Donc... quand moi j'étais plus jeune et que je jouais beaucoup plus aux jeux vidéo, ils nous cassaient les roupettes, avaient le dire: oh là là, les jeux vidéo, c'est dangereux pour la santé des enfants, ça va les rendre gros, ça va les rendre violents. Dès qu'il y a, bon, ça c'est toujours pareil, hein, dès qu'il y a un événement sur les jeux vidéo, sur un gamin qui va désinguer plein de gens dans un lycée, c'est la photo aux jeux vidéo.
En 2007, là.
Les parents sont très dangereux pour les enfants, moi je pense qu'on devrait...
Là c'est simple, là, t'achètes un jeu vidéo à ton gamin, mais tu t'intéresses à ce qu'il fait, comme tu t'intéresses à ce qu'il lit, et c'est à toi de suivre, pas donner GTA à ton gamin de 5 ans. Enfin bref.
D'après la fiche Wikipédia de Famille de France, en 2011, ils ont affirmé établir une corrélation entre la drogue et les jeux vidéo.
Oui, non mais eux ils sont super forts. Et ça me permet de rebondir justement sur cette histoire des jeux vidéo à travers l'histoire. Le premier en fait c'était Death Race, qui est en 76, qui était basé sur un film Death Race 2000. Et en fait, le but du jeu, c'était une course de voiture. On pouvait écraser des gens. Mais en fait, les gens dans le jeu vidéo, c'était des Gremlins. Mais bon, comme c'était un peu genre le design d'Atari, forcément, on voyait pas trop la différence entre un Gremlins, un être humain ou peu importe. Donc là, aux USA, ils avaient fait oh là là et tout. Attention, ça va faire une génération de gens qui vont rouler vite et qui vont écraser les gens dans la rue. Bon, on a encore ce même discours un peu plus tard avec GTA.
dont j'étais assez
Il
n'y
a pas beaucoup plus d'accidents de piétons qui sont écrasés volontairement dans le monde. Hein.
Donc, ah ben non, non, c'est sûr. C'est sûr.
Mais GTA se sert maintenant de cette publicité pour la sortie de leur jeu vidéo à chaque fois.
Ah ouais,
ouais.
Je regarde juste une petite aparté à ce propos, ouais, parce que je suis directement concerné vu que j'ai plus le permis en ce moment, comme d'hab. Non, c'est juste pour les chiffres de la sécurité routière, par exemple, montrent très clairement qu'il n'y a jamais eu autant, il y a jamais eu moins de morts que cette année en fait.
Ouais,
c'est-à-dire
que
cette année, ça a été un record de pas de morts sur la route depuis que les stats existent, quoi. Ça veut dire en gros depuis 48. Ça veut dire qu'en 48, quand il y avait une bagnole pour 30 personnes, alors qu'aujourd'hui on est à 4 bagnoles pour une personne, je pense, hein, je raconte des conneries, mais ça doit être à peu près ça, je pense, le ratio, quoi. J'exagère un peu, mais en gros, c'est ça. Et ben voilà, bah, on fait quand même le record. Ça veut dire que les gens se sont énormément policés, quoi. Ça veut dire
surtout
peur, en fait.
Depuis, en fait, ça me fait mal au cul de le dire, mais depuis qu'il y a Sarko qui est arrivé, la courbe de stats, elle a quand même vachement baissé depuis qu'il est arrivé.
Ouais, c'est la peur du clic.
Des trucs partout. Enfin bref, vous voulez que je rebondisse encore plus sur les jeux vidéo ou pas? Mais justement, donc du coup, je me suis un peu intéressé aux légendes urbaines du jeu vidéo et j'en ai trouvé une qui était un peu rigolote. C'est Killswitch. Alors c'est un jeu qui a été fait, qui est supposé avoir été fait parce qu'en fait, au final, je vais raconter, c'est un hoax par une boîte russe. Et en fait, dans ce jeu, le jeu prend place dans une mine désaffectée en Russie, où tu vas affronter soit des morts-vivants d'anciens ouvriers mineurs, soit des monstres des mines. Et en fait, tu peux être soit une nénette. Et donc, bah, c'est du point and click. C'est en 89, il est sorti ce jeu. Soit tu peux être un fantôme. Et ce fantôme, en fait, personne, l'histoire dit que personne n'a jamais joué parce que, en fait, tu vois pas ton personnage dans le jeu. Et il a eu tellement d'impact, en fait, cette légende urbaine, qu'après, il se dit aussi que ce jeu, une fois que tu l'as joué une fois, eh ben, il disparaît, il est effacé totalement. Et qu'il y aurait eu un comment ça s'appelle
Une fois que tu l'as fini, tu
Yamamoto Samaruchi, je sais plus comment il s'appelle. L'aurait, dans une vente aux enchères sur eBay, l'aurait acheté $700,000 et il prévoyait de documenter sur YouTube son expérience du jeu. Et en fait, la seule vidéo qu'il y a de lui, c'est, on le voit, en fait, il est devant son PC en train de pleurer, quoi, tu vois. Et bon, j'ai pas retrouvé cette vidéo. Donc tout indique que c'est du hoax, mais il y a quand même des gars qui en sont allés pousser le bouchon à développer le jeu, quoi. Donc maintenant tu peux jouer au jeu et être soit la nana qui s'appelle Porto, soit être ce fantôme. Donc
que
ça, moi je trouve que ça, la légende est quand même devenue une réalité. Et
ça, c'est bon.
Et ça, c'est bon, quoi. Je reviens, j'en étais où? À Famille de France. Donc ouais, Famille de France, des gros bâtards. Donc ensuite il y a la Confédération nationale des associations familiales catholiques qui elle aussi à chaque fois sur les manifs pour tous, ouais c'est ça qu'ils appellent ça pour tous, ils appellent à venir manifester, ils ont fait arrêter plusieurs choses qu'il y avait dans les écoles, il y avait SOS homophobie qui allait dans les écoles, ils ont fait retirer ça, et après il y avait aussi la ligne Azur qui avait été portée aussi par l'État. C'est en fait une ligne téléphonique pour des jeunes qui avaient des problèmes d'identité, tu vois, ou des problèmes de sexualité, ils ne savaient pas trop, pour justement aider ces gamins-là. Et bien, ils ont fait retirer ça, quoi. Donc, bref, donc il y a deux trucs catholiques, mais il n'y a aucun truc juif, ni aucun truc musulman, ni bouddhiste, ni rien. Donc, ça te montre quand même vachement le truc. C'est 15
orienté.
Associations, puis des associations, deux associations catholiques qui font aussi partie d'une troisième association.
Ouais.
On va dire, donc sur 15, si demain tu as un problème avec...
Sur 15 associations, c'est non. ça fait...
Il y a trois associations, deux associations bien catholiques et une troisième qui regroupe beaucoup d'autres associations, dont ces associations catholiques.
Aparté, je rappelle que la première GPA connue et médiatisée, c'est Marie, l'Esprit Saint, Jésus et Dieu.
Ouais, non, mais oui, tout à fait. Hein. Donc, moi, Famille de France, je l'ai, de toute manière, je les ai aimés, eux, et comment ça s'appelle, Ségolène Royal, qui nous a flingué tous les épisodes de dessins animés et de mangas, et nous a obligé à changer vraiment tous les dialogues des mangas, et que ça... Enfin, si tu re-regardes, par exemple, comment il s'appelle,
Ken le survivant,
ça n'a ni queue ni tête au final. Ah ouais, ils ont changé, ouais, il y a des histoires de pizza, de chef cuisinier,
oh, enfin,
c'est n'importe quoi. Bon, c'était quand même hyper violent, quoi.
Un peu hardcore.
Moi, je laisserai pas ma gosse regarder ça. Ouais. On est bien d'accord, mais
ouais,
bon.
Moi, je préfère l'intro bref. Trop aussi, ouais.
Ouais, l'intro trop, ou ouais. Choupi, ouais.
C'est parti, les amis.
Ou Dorin.
Allons-y, let's go.
Je
ne
peux plus la supporter.
Ouais, mais putain, c'est clair. Ça, pour le coup, ça donne des envies de meurtre, ouais, c'est clair, le matin.
Et babouche, là, je te chope, babouche. Enfin, bref.
Arrête de chipper, ouais, putain.
Ouais, ouais. Ça, il y a, c'est quand même vachement. Il a vachement un accent italien, je trouve, c'est un peu drôle. L'espèce de renard voleur. Donc, enfin bref, pour finir sur les actions de groupe, il faut savoir que ça concerne que la consommation, donc ça concerne pas tout ce qui est problématique de santé ou problème peut-être éthique. Et j'ai pas vérifié, ça a vérifié de toute façon tout ce qui est environnemental, l'État n'a vraiment pas intérêt à le faire, sinon il y aura tout ce qui est barrage de
Sivens, hein,
ouais. L'aéroport des Landes, je pense qu'il y a les actions de groupe, ça va être direct. Ouais. Donc du coup j'en profite pour rappeler que le 25 de ce mois-ci, il y a un rassemblement au barrage de Sivens pour aller montrer que on n'est pas d'accord et qu'il commence à vraiment...
Samedi 25, c'est ça.
Ouais, samedi 25.
J'ai rappelé tout à l'heure tout ce qui se passe sur Toulouse et dans le coin contre le barrage.
Voilà, donc moi je pense qu'ils vont le faire, le truc sur l'environnement, tout ça, mais ça concernera que les entreprises.
Ouais.
Voilà, l'État, là, sur la consommation, l'État, bon, je sais pas trop ce qui... Ouais, je sais pas.
Non, parce que sinon, on pourrait pas faire les tranches 3 et 4 de Golfech non plus.
Ben oui, voilà, ouais, tout
parce
ça.
Parce que moi, derrière le barrage de Sivens et les 16 barrages qui doivent être faits, j'y vois de quoi refroidir la centrale, parce qu'ils sont tous en amont de la centrale.
Ouais.
Ah, t'as l'esprit mal placé, je crois.
Voilà, mais oui, j'ai l'esprit mal placé.
Ça fait un peu complot, quand même.
Ouais, ça fait un peu complot.
On cherchait un complot pour l'émission, tu nous l'as trouvé, voilà. C'est sympa. Ben, moi, je finis, je propose qu'on fasse une coupure pub.
Musicale.
Et je sais pas ce que c'est.
Et c'est un des deux titres qu'on vous donnera juste après.
Allez, on balance.
On balance.
C'est quoi ? C'est sur la clé, là ?
Oui, ouais. C'est la piste 2.
Ah, bah voilà, il fallait me le dire. Non, là, j'ai. Bah oui, mais là, prolétaire.
C'est ça, you can get it.
They say that age kills the fire inside of a man. That he hears death coming. He opens the door and says, come in, give me rest. That is a pack of lies. I've got enough fight in me to devour the world. So, I fight. We'll be right back.
Ça coupait
net.
Ouais, ça coupait cash là.
Ouais.
Et pourtant, ça continue à défiler.
Bon, enfin bref. Donc c'était Prolétaire et You Can Get It. Pas dans la pause, nous avons eu l'appel d'un auditeur, le premier. Alors quand même là, tu vois, je suis un peu fier, tu vois. De Friedrich qui tient à rétablir la vérité sur Hokuto no Ken, donc Ken le survivant, où j'ai dit un peu n'importe quoi. Ce n'est pas l'État qui a fait censurer tous les dialogues de Hokuto no Ken. Ce sont les doubleurs eux-mêmes qui trouvaient que c'était tellement violent qu'ils en fait ont mixé d'autres chose sur Hokuto no Ken. Donc merci à Friedrich d'avoir rétabli la vérité de Ken le survivant. Donc maintenant on reprend, c'était toi Rep, tu voulais parler du Raspi.
Ouais,
ouais, vas-y.
On peut parler un petit peu de ça. C'était juste pour dire que du coup j'avais mis en place un petit Raspi. Alors le Raspi, c'est le Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur qui coûte 30 balles. Qui consomme 5 watts, donc en gros, si on l'allume 24 heures sur 24 pendant l'année, ça coûte entre 5 et 10 euros
ouais.
de consommation électrique.
Moi, donc c'est une ampoule, quoi.
Ouais, c'est peanuts, quoi. Enfin, c'est 5 watts, quoi, voilà. Et ce petit machin permet de configurer cet ordinateur, donc, parce que c'est un ordinateur, en serveur. Et donc, par exemple, d'héberger ses propres services. Alors, ça peut être son backup de fichiers, c'est pour sauvegarder ses fichiers, ça peut être pour les rendre disponibles en ligne aussi. Pour faire, moi, je compte me faire une galerie photo avec des gigas de photos qui me prendraient des plombes à uploader sur mon serveur. Là, j'ai qu'à brancher mon disque dur et toutes mes photos sont disponibles. Je m'en sers aussi pour héberger un serveur de mail. Et donc ça c'est cool, parce que ça veut dire que les mails, du coup, ils sont sur la SD card du Raspi.
Ouais.
Ils sont pas chez Free, ou chez OVH, ou chez Google, ou chez Yahoo, ou dans le backup de la NSA, ou de la DGSI, ou j'en sais rien, de la DCRI, ou j'en sais rien. Ils sont à la maison.
Et t'as de l'info pour monter tout ça pour
ouais,
si
bon,
quelqu'un veut se le faire, parce que moi ça m'intéresse en fait.
Ouais, ouais, bah en fait après, ben, j'ai, sur la liste du Stalab, j'ai envoyé la liste des ressources dont je m'étais servi. En fait, il y a en gros 3-4 trucs à faire qui sont un peu chiants. C'est-à-dire il faut configurer les DNS. Si on a un nom de domaine, moi ce qui était mon cas, j'ai acheté un nom de domaine à ce propos, le point XYZ est en ce moment en promo chez Gandhi, je crois que ça coûte 3 euros par an hein, d'acheter un point XYZ.
Et il correspond à quoi ce XYZ?
J'en sais rien, moi je l'ai pris parce que je trouvais que ça faisait 3D, j'adore.
C'est
comme,
vrai.
Tu vois, c'est XYZ.
Ouais, je vois plus la programmation.
Tu vois le repère.
Vois.
Ah bon? Non, moi je voyais le repère orthonormé, tu vois, enfin bon bref. Donc je me suis acheté un point XYZ, j'ai configuré mon machin Gandhi pour que ça pointe sur mon IP fixe qui correspond à ma box. Sur ma box, j'ai ouvert les ports qui vont bien pour faire du mail et du web, c'est-à-dire 80, 143, 25, je sais plus quoi, 500, j'ai pas en tête, etc. Faut ouvrir les ports, configurer sa box pour qu'on puisse, pour qu'elle puisse relayer du courrier SMTP. Voilà, donc ça c'est les trucs à faire sur les DNS et sur la configuration de sa box. Et ensuite, il faut installer, moi j'ai installé PostFix, qui est un relais SMTP, et un autre truc qui s'appelle Dovecot, et qui fait de l'IMAP et du POP3. Et donc à partir du moment où on a installé ces logiciels, il faut les configurer ensuite pour qu'ils se connaissent l'un l'autre, configurer Dovecot pour qu'ils sachent que PostFix est installé, et configurer PostFix pour qu'ils sachent que Dovecot est installé sur la machine. Et une fois qu'ils marchent en concert l'un avec l'autre, et ben voilà, ben on a une solution de mail où on peut envoyer et recevoir des mails avec son petit Raspi en fait. Et voilà.
D'accord.
Et ben là, ça coûte.
Voilà.
Coup, ça
j'aime
coûte,
bien le voilà.
Ça coûte 5 euros de plus en électricité que juste avoir une box, et ça offre la possibilité d'avoir son propre serveur mail à la maison, sur sa machine. Voilà, voilà. Ce qui peut être pas mal.
D'accord.
Ça. Alors, il faut quand même avouer que ça ne. Ça ne lutte pas contre l'espionnage. Parce qu'on peut se faire écouter sa ligne à plein d'endroits.
Oui, tout ce qui sort et qui rentre de ta ligne,
dont on n'est pas maître. Voilà. Donc,
pas maître de ça.
S'il y a un mec qui backup à un endroit le truc, notre mail sera backupé avec. Bon,
ça, ouais, ça. Mais ça te fait un double backup quelque part à la NSA.
et d'une, ça fait un double backup. Et puis le truc, ce qui est quand même pas mal, c'est que en principe, ce backup dont on parle, en fait, il est en principe assez illégal. Enfin, plus tellement depuis la loi terroriste machin là qui a été votée il y a 15 jours là. Mais enfin, jusqu'à maintenant, c'était a priori illégal d'enregistrer des conversations et de s'en servir comme moyen de pression sur des gens, quoi. Sur le net, en tout cas.
D'accord.
Il fallait disposer de d'écoute comme les écoutes téléphoniques, quoi. C'est-à-dire que ce soit décidé par ce qui est plus le cas maintenant. Hein. C'est-à-dire que maintenant les écoutes sur le net ne passent plus par des juges et peuvent être décidées directement administrativement. C'est la loi terroriste là, machin, la loi de programmation militaire, je crois, qui est passée il y a 15 jours,
ouais, ouais.
Avec les campagnes de la Quadrature, de FDN, etc. qu'on essayait de parler de ça et de qu'est-ce que ça, comment ça expose les gens en fait. Donc voilà, donc le fait d'héberger son serveur de mail chez soi, ça lutte pas contre ça, mais enfin bon, ça permet, disons, d'essayer de mettre une certaine distance entre soi et les opérateurs qui des fois sont pas très.
Et est-ce que ça de toute façon, on est toujours obligé de passer par un opérateur pour aller sur des pages internet. Donc
oui,
on peut toujours voir ce que tu veux regarder.
C'est ça, exactement. Sauf que jusqu'à la programmation la LPM, en principe, c'était interdit. C'est-à-dire qu'un opérateur n'avait pas le droit de brider des services, que ce soit du P2P ou j'en sais rien. Ça s'appelle la neutralité du net. C'est-à-dire que en principe, les opérateurs n'ont pas le droit de brider, soit de brider des services en faisant baisser la bande passante sur tel ou tel type de service, par exemple le P2P, c'était voilà, soit d'interdire l'accès ou de revendre les informations de cet accès à d'autres opérateurs ou à l'État. Quoi. En principe, ça c'était interdit. Ça a été mis à mal avec la loi de programmation militaire, mais jusque-là, normalement, c'était interdit. Voilà.
Bon. Quelqu'un va nous parler de... Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais il y a deux choses quand même. Il y a Google qui veut nos données médicales et il y a aussi le nouveau Microsoft qui devrait s'appeler 9 et qui s'appelle 10.
Ouais.
Bon,
ouais. Aucun.
Non, bah, Microsoft, on s'en bat les couilles. Et les médocs, j'ai pas trop regardé, donc j'en parlerai pas. Moi.
Bah, si, ça s'appelle les objets connectés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as une montre, par exemple, qui calcule tes battements du cœur, voilà. Et ben, t'envoies tes données cardiaques, oui, à Google en direct, quoi. Voilà, c'est juste ça.
Oui, oui, bah...
Vous avez pas vu cette vidéo qui est passée aux Pays-Bas pour une entreprise qui travaille avec le gouvernement néerlandais et qui avait fait une belle vidéo pour montrer comment tous les objets connectés, s'ils étaient surveillés, ça pourrait servir à protéger tout le monde. Donc ça a montré quelqu'un qui avait crevé son vélo, du coup il rentrait chez lui à pied en poussant son vélo. Bon, il passe par une cité et du coup son cœur commence à battre dès qu'il y a deux mecs qui commencent à s'approcher de lui. Et en fait, comme son battement de cœur s'est connecté à la police, la police remarque qu'il y a un individu comme ça qui est en état d'alerte. Et du coup, ils activent la Google Glass pour regarder qui c'est qui est près de lui. Ils voient qu'il y a deux individus. Ils utilisent le GPS pour savoir s'ils ont des téléphones portables. Ils regardent à qui appartient ces téléphones portables. Ils voient que c'est des individus qui ont un casier judiciaire. Et ils envoient une patrouille de flics. Et le mec, du coup, il est content. Il rentre chez lui. Il envoie un message sur Twitter et Facebook pour dire que c'est quand même vachement cool que les flics soient venus l'aider dans cette situation.
Ouais, puis c'est même pas une vidéo ironique.
Non, c'est une vente de produits, c'est tout joli, tu sais, avec les beaux dessins et tout ça, et en fait ils ont dû retirer la vidéo
ils se sont fait bâcher,
ils ont dit, enfin leur excuse c'était que c'était une vidéo uniquement destinée aux experts et que le reste des gens ils comprenaient que dalle à tout ça.
À ce propos, tiens, j'ai juste un petit truc, tant qu'on parle des Google Glass par exemple, c'est rigolo, c'est un mec qui s'appelle Julian Oliver, c'est un artiste que je suis depuis un petit moment, que c'est un mec qui est assez cool, qui est dans la techno, etc. Il a sorti un truc qui s'appelle le Unplug, et qui est un espèce de boîtier qu'on branche sur une prise comme ça, du jus quoi, et en fait c'est un truc qui brouille les Google Glass quoi, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dedans un émetteur récepteur Wi-Fi quoi, une antenne etc, et qui est capable de détecter je sais pas comment ça marche, si c'est sur les adresses MAC des Google Glass ou je sais plus comment c'est branlé son truc, mais en gros, donc c'est un petit ça ressemble à un petit chargeur, un petit truc à la con, un chargeur téléphone portable, c'est tout petit, ouais, ça se branche sur la prise
GSM.
Et voilà, et ça brouille le signal en fait des Google Glass quoi. Voilà, donc si tu rentres dans la pièce et que t'as une Google Glass, pouf, tu perds la connexion, voilà.
Ouais, mais ça enregistre quand même sur les Google Glass,
ça enregistre, ouais, en local, mais tu perds la connexion au réseau en fait.
pour crever les yeux des gens, c'est le plus rapide.
Ouais, ou leur péter leur Google Glass. Ouais.
Ou leur péter. Ouais.
Ou leur péter la gueule, ouais, carrément.
Moi, j'avais un truc rigolo. Facebook va lancer une messagerie anonyme. Oh la bonne blague. Voilà.
Ce qui est
Facebook,
ouf, c'est qu'il y a
le plus gros fournisseur de la NSA, ils vont faire une messagerie anonyme. Ouais.
Ce qui est fou, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont y croire, du coup, qui vont se permettre d'envoyer des messages anonymes.
Et ça deviendra suspicieux.
Oui, ben ça c'est comme l'histoire de FireChat.
FireChat, oui.
FireChat.
Qu'est-ce donc FireChat ?
Eh ben, c'est comme son nom l'indique, c'est la... Non. C'est FireChat,
en fait. Non, c'est un système de... En fait, quand il n'y a pas de réseau, ou... c'est un système de chat qui passe pas par le réseau cellulaire, quoi. En fait,
par le Bluetooth ou Wi-Fi.
On est connecté entre téléphones, et chaque téléphone fait un relais pour propager le message. Okay. C'est une boîte une start-up française qui a lancé ça. L'idée est super bonne.
Ça a été ce qui a marché à Hong Kong.
Et ça fait fureur à Hong Kong. Les mecs pour se synchroniser tout ça, mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que en fait tous les messages qui passent sur FireChat sont clairs, quoi. On peut nous aller voir ce qui se passe à Hong Kong. Ouais,
Il y a un truc, enfin sur Reflet, on parle pas mal de ça. Et il faut quand même se connecter avec un proxy qui se situe dans le pays en question. Il y a quand même cette limite.
C'est pas super compliqué à faire.
Non,
et en fait, les autorités sont au début, quand il y a eu cette appli, elles n'ont pas trop dit grand chose. Elles n'ont pas essayé de couper quoi que ce soit ou de faire des choses. Ben, tu m'étonnes. Il y a tous les messages des manifestants qui passent en clair et on a qu'à se baisser pour les ramasser.
Il n'y a pas que les messages, il y a pas mal de choses qui permettent de les identifier aussi. Hein.
Ouais.
Il n'y a pas que le contenu des messages, il y a aussi tout un tas de ce qu'on appelle les métadonnées qui concernent l'utilisateur, sa localisation, son identification.
Et ce qui est crado, c'est que le gars de la start-up française, ça a fait un succès, donc voilà pub pour son application. C'est comme quand il y a eu le printemps arabe, Facebook a aidé le printemps arabe, ça fait de la bonne pub pour Facebook. Et par un petit tweet, il a dit attention, c'est pas un truc sécurisé. Mais tu crois pas qu'il aurait mis, ils le disent dans reflet.info, mais il faudrait qu'il mette en rouge, en gras et que ça clignote au lancement de l'application pour que les gars arrêtent d'utiliser cette appli, quoi. Parce que
ou l'utilise à bon escient, voilà. et éventuellement langage codé.
Et s'il fait pas gaffe, ça va être comme Amesis, tout ça, ces logiciels d'écoute chez Kadhafi là, en Libye, qui ont permis de choper des gars, des opposants politiques et de les torturer. Voilà. Actuellement, il y a des procès en France contre ça, et le gars, ça va se retourner contre lui quoi, au final.
C'est Thibaut Bechetoy. D'ailleurs, c'est assez rigolo quoi. Il faut aller voir les interviews de Thibaut Bechetoy. Je crois qu'il a été interrogé par Le Figaro, Echo ou un truc comme ça. C'est génial quoi. Le mec, comment il décrit sa boîte, faut vraiment le voir quoi, parce que le gars présente vraiment sa boîte comme le summum des technos, la start-up française sur le modèle de la Silicon Valley, tout ça, c'est vraiment
tech.
Génial, le gars en cravate, avec super bien filmé et tout, avec le journaliste éco qui lui pose les bonnes questions et tout, c'est vraiment génial. Quand tu sais derrière, en termes de philo et de sociologie, ce que ça implique, ce qu'il raconte et comment ça s'est traduit, putain, c'est juste à gerber quoi. C'est marrant de voir le découplement entre l'image du gars en costard clean qui part de sa start-up, qui crée des emplois et qui est à la pointe de la technologie, et derrière les applications que ça peut avoir qui sont juste gerbantes quoi. Enfin, c'est, je trouve qu'il y a un...
Ouais, enfin l'appli est bien, après c'est comment elle a été faite qui est... C'est
les... Enfin l'appli est bien, oui. Enfin le DPI, oui, ça... Ah, tu parles de FireChat ?
Ouais,
FireChat. Non, là, j'étais sur Bluecoat et Amesis.
Ah, tu parles d'Amesis.
Ouais, de Bechetoy. De Bechetoy, Thibaut Bechetoy.
D'accord, je croyais que tu parlais de...
Il va avoir
des problèmes un jour.
Tu parlais un peu de l'espèce de double discours du mec FireChat. Qui avait dit, oui, bon, quand même, je l'ai dit sur Twitter, que les messages étaient publics, mais ça n'est pas vanté, tu vois, c'est quelque chose qu'il a pas mis ça en avant.
C'est quand même bien débile, parce que du coup, s'il y a des grosses manifs comme ça, il suffit qu'il y ait des services de renseignement qui arrivent et qui arrivent à dire à assez de monde d'utiliser cette appli, elle est bien alors qu'en fait elle est super trouée. Personne qui est prêt pour me poser une.
Avec cette appli, il y a quelqu'un d'autre qui peut envoyer les gens, au lieu de les envoyer place de la Bastille, il les envoie place de la République.
Oui, aussi.
Et alors qu'il y a des trucs genre BitMessage, il faudra qu'on fasse une émission sur BitMessage, un protocole d'échange crypté pour s'envoyer des messages.
Ok.
Et anonymiser tout ça, donc il faudrait parler de tout ça une prochaine émission.
Tiens, budget de la Hadopi, la CGT, culture, réclame une hausse des moyens. Déjà qu'ils en balancent pas mal de...
Tiens, d'ailleurs, je, là j'y pense juste parce que je rebondis, je fais comme toi, Florent, je rebondis. Ouais. Il y a deux semaines, j'ai été contraint d'aller manger au McDonald's.
Arrête.
Voilà, si, si, je vous jure.
À cause de la Hadopi.
Bah parce que, en fait, j'étais dans un taf où, en fait, j'étais dans une espèce de zone industrielle, j'étais sans bagnole, et en fait, le seul truc qu'il y avait pas loin, c'était ça. Voilà, donc j'ai été bouffé à McDonald's, et j'ai constaté. Alors, c'était le McDonald's de Narbonne qui se situe près du carrefour de Narbonne.
Ah ouais, je vois.
Voilà, vous voyez. Hein, non, mais c'est. Peu, et en fait, reflet est censuré dans le McDonald's.
Ah ouais.
Voilà, donc c'est quand même rigolo. C'est-à-dire que
il faut une censure quand chez McDo.
Quand tu vas chez McDo et que tu te connectes au Wi-Fi de McDo, tu peux, en passant, tu sais, t'as un avertissement, il faut que te connecter avec ton browser et puis il te dit, tu sais, t'acceptes le machin. Il faut accepter ce truc-là avant que la borne te.
Faut pas mettre ton nom.
Non, moi, on m'a pas demandé mon nom. On m'a juste demandé d'accepter des conditions.
Il y a un proxy automatique.
Ouais, tu vois.
À ma boîte, je pense que Reflet doit être censuré.
Mais donc,
plein de sites qui.
J'avais accès à Mediapart, enfin les trucs que je lis d'habitude, quoi, la presse, machin, les trucs sur lesquels je suis abonné. Et Reflet, non. Il y avait une erreur, je sais plus quoi, je l'ai noté, je crois. Ça me revient là. Et en fait, voilà, il y avait un truc indisponible, je sais pas quoi, il t'envoie bouler, quoi.
Ah, il faudrait aller à McDo et tester tous les sites.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me permets de le dire à la radio, c'est pour savoir si d'autres gens, dans d'autres McDo, ça fait pareil ou pas. Voilà.
Ouais. Eh bien, envoyez tout sur le site de Tétalab.
Une espèce de censure.
C'est ça, ouais.
Toutes les
sur canalsud.tétalab.org.
Ouais.
Sur le pad de l'émission.
Sur le pad plutôt. L'agenda. On passe à l'agenda. Ou tu avais d'autres choses à dire?
Non,
la musique.
Il y avait petite, il y a un nouveau truc type Facebook, Hello ou je sais pas quoi.
Ouais, Hello, c'est un nouveau Facebook, c'est super.
Sans les pubs.
Hype, mais ouais. J'ai pas.
Il y a sans la grand-mère, sans la pub. Il n'y a pas tes parents dessus.
Il n'y a pas tes parents.
Mmh. Ouais. Sur Facebook, il y a tes parents qui sont arrivés, du coup, c'est un peu relou.
Voilà, et il y a une grosse blague qui circule aussi en ce moment sur Hello, c'est qu'en fait, c'est le meilleur moyen pour faire gonfler la Framasphère, en fait, qui est la version française de Diaspora, et qui est, lui, pour le coup...
C'est pour la French Tech, c'est ça?
Non. Non, c'est Framablog, les Framablog.
Ah, oui,
vous voyez, Framablog.
C'est quoi le rapport avec Hello?
Eh bien, c'est qu'en en fait, il y a Diaspora, qui est le réseau libre...
Oui, vous voyez.
Et ben en fait, le buzz entre guillemets sur Hello a permis de faire monter dans les jours qu'on suivit la publication de Hello le nombre d'inscriptions sur Framasphère de manière vertigineuse. En fait, ouais.
Et pour appeler Framasoft, c'est un regroupement d'outils libres.
Ouais, bah ils publient,
ils reprennent un peu
d'outils libres,
tous les outils,
voilà.
Google, voilà. Genre pour voter, les Google Docs.
Disons que ce sont ils promeuvent le logiciel libre et l'utilisation des logiciels libres.
Ouais.
Ils permettent de les télécharger, ils ont des didacticiels sur comment les utiliser, etc. Donc c'est des acteurs assez importants, on va dire, du libre.
L'agenda alors ?
L'agenda, et puis on s'en va.
Donc samedi prochain, le 11 à IPN, ETA, 30 rue des Jumeaux. Rue des Jumeaux ? Au bout de la rue du Jumeau, c'est juste à côté de la gare et boulevard des Minimes. C'est les 10 ans de Long H Production avec des installations du Tétalab, dont le Pong 1D qui était là, c'était la sortie de multiprise au mois de juin. Ouais. Et plein d'autres installations sur l'expo intersection qui est à IPN depuis cette semaine. Je sais pas si c'était hier ou... Enfin bon, en tout cas ça a commencé.
L'expo, c'est... Ouais, le vernissage, c'était hier.
Ok, donc c'est l'expo intersection avec d'autres œuvres numériques et autres. Et un concert aussi.
De Mick Art, qui vient d'Australie, c'est de la folk.
Ok.
Et l'entrée est libre.
Ok. Et Fabrice, il joue aussi, non?
Fabrice, il joue aussi?
Non, je sais pas.
Je sais pas, il faudrait lui demander. Je crois qu'il fait le DJ.
Il fait DJ, ok.
Voilà. Ok, ensuite...
Et à mercredi prochain... Il y a le Tétalab comme tous les mercredis soir.
4, 5, 6, 7 à Vienne. Il y a le.
Décembre.
Il y a Robo Exotica qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, qui est un championnat international de robots cocktails. Donc on est en train de voir ça, mais peut-être que le Tétalab va envoyer un robot là-bas et qu'on sera peut-être les champions du monde du robot cocktail. Donc ça vient en Autriche.
Précise, est-ce que c'est le robot cocktail peut-être,
parce que... Bah c'est un robot qui fait les cocktails, mais c'est à la base, il n'y a rien de sérieux, il faut que ça soit le plus délirant possible. Donc il y a aussi par exemple un robot qui fait des crêpes, tu vois, et c'est vraiment un bon délire. Donc ouais, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent participer ou amener des idées à ce robot, je les invite à envoyer des mails sur la mailing list du
Tester les cocktails.
Ouais, après, quand... Bon, on a 2 mois pour faire le robot, ça va être chaud. Ça me fait rebondir sur le THSF, on connaît les dates maintenant.
Ouais, a priori, ouais, on a plus ou moins décidé.
Ouais, ouais, cette année, on a dit, on s'y prend tôt, ouais. Et on y arrivait.
C'est plus ou moins bouclé, on risque de faire ça 14, 15, 16, 17.
Voilà. Mais... Et justement, sur ce mode de robot Exotica, il y aura sûrement un championnat international de robots sous le motif des solutions complexes à un problème inexistant. Donc, des robots bien débiles... sur le mode d'un robot qui fait des cocktails ou
qui font rien mais avec style.
Voilà, ou qui font rien mais avec style. Ça, c'est pas mal, ça. Je te le pique. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ben, faites des robots. Il y aura sûrement mi-avril un rassemblement de personnes intéressées par ça pour, par équipe, construire des robots pour participer à ce concours. Mm. Voilà, j'ai fini.
L'atelier robot, quoi.
Ouais.
D'autres informations, d'autres rendez-vous?
Bah, il y a le truc, mais peut-être on peut en parler la semaine prochaine, mais il y a la Novella avec le stand du Tétalab.
Voilà là.
Ouais, mais je joue, quoi.
Donc voilà. Novella, le
18-19 octobre.
Le Festival des Savoirs Partagés, sûrement la dernière édition. Cette année, avec coupure de budget,
avant suicide collectif,
on est passé à Cohen, donc c'est plus la même rigolade. Donc,
Houdinck, perdu. Ouais, bah, t'avais une chance sur deux en même temps.
Je suis fatigué, désolé. Donc, et c'est où déjà?
Du coup, ça a déjà lieu, ça a commencé le week-end dernier. Et c'est au Jardin des Plantes, au Grand Rond et sur les allées Jules Guesde.
Voilà.
Et donc nous, le Tétalab, on sera sur les allées Jules Guesde au niveau de l'entrée du Jardin des Plantes, la grande, le grand portail.
Ouais. Et donc on fait un reboot des robots brosses à dents avec un super boulot sur la PCB, sur le robot à souder.
Franchement, il déchire.
Il déchire, quoi.
Il déchire.
Vraiment, c'est de la compète de Bristol
Bot,
là.
C'est Hacker Bazar, le thème.
Ouais.
Donc, il y aura des Minitel, il y aura des...
Et il y aura le Pong Indé.
Le Pong Indé, ah, ouais. Il y aura plein de trucs.
Viendez, ouais, et c'est gratuit.
Ouais, voilà. C'est gratos, mais ça fait un bon petit week-end en famille et tout, c'est rigolo.
Voilà, profitez, c'est la dernière année.
Ouais.
Ouais.
Bon. Sniff.
Eh ben, on vous dit au mois prochain. Je ne sais pas quel jour, mais au mois prochain.
Ouais, le 6 novembre, probablement.
Ok.
Bon, bah écoutez, Nissim, machin, là, je vous mets ça.
Ok. Gazlamp Killer, Nissim.